BW. Vue d'Allemagne.
Près de 4000 villes et communes d'Allemagne ont fait d'Adolf Hitler un citoyen d'honneur pendant les années du nazisme. Certaines n'ont jamais désavoué publiquement le dictateur après la Seconde Guerre mondiale. À Bad Honnef, dans l'ouest de l'Allemagne, une classe de lycée a décidé d'agir. En deuxième partie de ce magazine, direction New York, où notre correspondant a rencontré des jeunes Africains arrivés dans le pays par une voie migratoire des plus dangereuses, celle qui traverse l'Amérique latine. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue. Tout a commencé par un cours d'histoire au lycée Siebengebirge de Bad Honnef. Des élèves d'une classe de 10e, l'équivalent de la seconde, se sont mis en tête d'écrire eux-mêmes l'histoire de leur ville en pressant les autorités de la commune de prendre officiellement leur distance avec Adolf Hitler, ancien citoyen d'honneur jamais renié par la mairie de cette ville d'environ 25 000 habitants. Cathy, Lily, Ronia, Mia et Céline représentent leurs camarades. Elles veulent, accompagnées par leur professeur Thomas Roth, que l'administration fasse une déclaration symbolique et se distancie de l'idéologie d'extrême droite qui recommence à faire florès en Allemagne.
Nous vivons dans cette ville. C'est pourquoi son histoire nous intéresse. Nous nous sommes demandé si nous pouvions influencer aujourd'hui cette histoire et faire annuler la citoyenneté d'honneur accordée à Adolf Hitler.
Les élèves ont commencé par envoyer un mail à leur mère. Puis ces premiers courriels se sont commués en demande officielle, signée par plus de 1363 personnes, soit 5% de la population de Bad Honnef, ce qui est le minimum requis pour qu'un sujet soit examiné en conseil municipal. Et c'est déjà une immense victoire pour les élèves qui ont démarché leurs concitoyens pour les mobiliser.
La plupart des gens ne savaient même pas qu'Hitler était citoyen d'honneur, alors ils ont signé tout de suite la pétition.
Si on nous avait dit il y a un an que notre petite classe de lycée ferait tellement bouger les choses, on ne l'aurait pas cru. C'est sûrement lié au fait qu'on s'est mis à plusieurs pour agir.
On voit que l'extrême droite est encore très présente aujourd'hui et qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Ça montre que le sujet est actuel et qu'on ne peut pas le taire.
Bad Honnef a fait d'Adolf Hitler un citoyen d'honneur le 5 avril 1933, un mois seulement après la victoire électorale du NSDAP, le parti nazi, aux élections législatives. La petite ville compte parmi les premières à avoir distingué de la sorte celui qui n'était pas encore dictateur, mais elle a fait des émules. En un an, plus de 4000 communes ont suivi son exemple. Alors certes, le rang de citoyen d'honneur prend fin avec la mort de la personne concernée, en l'occurrence le 30 avril 1945 pour Adolf Hitler, mais pour la forme, certaines communes ont fait depuis leur mea culpa. Pas Bad Honnef, et c'est ce que regrette le professeur d'histoire Thomas Roth, tout comme ses élèves.
Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé le courrier de remerciement signé par Hitler, ainsi que le protocole d'une réunion du conseil municipal de 1983. À l'époque, un groupe écologiste avait déposé une requête pour annuler la distinction, mais il n'avait pas été jusqu'au vote. C'est ce qui nous a poussé à reprendre le flambeau.
La demande des élèves a été bien accueillie au sein de la municipalité. Un employé des archives de la ville, Jens Kremb, a cherché dans ses cartons différents documents et notamment cette lettre dans laquelle Adolf Hitler remercie la ville de Bad Honnef. Un petit miracle qu'il ait retrouvé tout ça quand on sait que les troupes américaines ont brûlé la plupart des archives en arrivant dans la ville en mars 1945. Les élèves ont rencontré le maire, Otto Neuhoff, qui se réjouit de leur engagement citoyen.
C'est une initiative formidable. Cela leur apprend tout ce qu'on peut faire quand on décide d'agir en politique. Et puis, ils ont pu constater en cette année d'élections régionales dans plusieurs Länder de l'Est de l'Allemagne qu'en démocratie, on n'est jamais victime. On peut participer, s'engager, et il existe des structures pour soutenir ces actions.
Ces dernières années, il n'est pas rare que des municipalités d'Allemagne aient fait le choix de prendre leur distance avec ce citoyen d'honneur devenu très encombrant qu'est Adolf Hitler. Souvent, les responsables de ces villes veulent en faire un geste symbolique contre la résurgence de l'extrême droite en politique, comme dans la société allemande. L'historien Thomas Schlemmer de l'Institut d'histoire contemporaine Munich-Berlin y voit une sorte de vague qui a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand la ville de Kiel a décidé dès décembre 1945 de retirer à Adolf Hitler son rang de citoyen d'honneur.
Dans les années 1945-1946, on assiste à un changement politique radical qui a à voir avec les alliés et avec les alliances qui se forment au sein de l'élite politique. De nombreuses rues et places sont débaptisées. À l'époque, il n'y avait quasiment aucune localité qui n'avait pas sa rue ou sa place Adolf Hitler. Ses premières réactions anti-nazies sont retombées ensuite dans les années 1948-1950, plus ou moins rapidement.
À cette époque, au début des années 50, l'Allemagne a opéré un changement dans son discours pour passer du statut de bourreau à celui de victime. De nombreux responsables nazis se présentent alors comme de pauvres hères, comme hypnotisés, manipulés par une petite clique de criminels, dont les plus connus sont Hitler, Göring et Goebbels. Ils affirment alors que ce serait eux qui les auraient poussés à commettre des actes contre leur gré, parfois même à leur insu. Et l'Allemagne met un couvercle sur ce pan douloureux de son histoire, dont elle ne se préoccupe plus vraiment pendant plusieurs décennies.
La réponse qu'on apporte au problème dans les années 1970-1980 est purement juridique. On rappelle que la citoyenneté d'honneur a pris officiellement fin avec le suicide d'Hitler et que donc la question est réglée. Mais en janvier 1979, on commence à fouiller le passé nazi et à soulever des questions, notamment grâce à la diffusion de la série américaine Holocaust, qui amène à la création d'un nouveau mouvement historique des historiens pendant le nazisme.
91 ans après avoir décerné le titre de citoyen d'honneur à Adolf Hitler, la ville de Bad Honnef est enfin prête à revenir sur cette décision de façon définitive. Et il est grand temps pour l'historien Thomas Schlemmer qui ne perd pas de vue le présent.
Quelles leçons tirer du passé pour défendre aujourd'hui notre démocratie ? Ces actes symboliques de distanciation sont une occasion formidable de se poser vraiment ces questions, au-delà même de la citoyenneté d'honneur accordée à Adolf Hitler, celle qui porte sur l'histoire de notre propre commune entre 1930 et 1950.
Vue d'Allemagne, deuxième partie, on vous emmène aux États-Unis, un pays qui attire depuis quelques années de plus en plus de jeunes d'Afrique subsaharienne. La plupart arrivent à pied après un voyage dangereux à travers l'Amérique latine. Les plus chanceux arrivent à destination, mais pour d'autres, moins fortunés, le voyage se termine tragiquement en chemin. Dans les rues de New York, on voit de plus en plus de ces jeunes livrés à eux-mêmes, dépendants de la générosité de bienfaiteurs pour survivre. Notre correspondant Jean-Claude Abalo a rencontré certains de ces jeunes. Voici la première partie de son reportage.
Par une matinée brumeuse au cœur de New York, un groupe de migrants africains, épuisés mais déterminés, débarque enfin après un périple éprouvant à travers la jungle d'Amérique latine. Pour beaucoup d'entre eux, l'Europe a longtemps représenté un refuge, une terre promise. Cependant, face à la montée des discours nationalistes et aux politiques de plus en plus restrictives, cette vision s'effrite. De plus en plus, ils se tournent vers les États-Unis, prêts à braver des routes semées d'embûches et des traversées périlleuses à travers l'Amérique latine. Yacoub, 31 ans, originaire du Niger, se souvient des débuts de son épopée.
Moi, je n'ai jamais pensé que je vais venir ici aux États-Unis. Parce que là-bas, en Afrique, pour avoir de visa pour partir en Europe, c'est tout un problème. On a vu les gens entrer ici vers la frontière. Moi aussi, je me suis dit qu'il faut que je tente mon sens.
Yacoub n'était pas seul. Avec lui, près d'une vingtaine de personnes ont formé un groupe de fortune. Certains viennent du Mali, d'autres du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal. Tous partagent une même aspiration, échapper à la pauvreté, à la violence, aux conflits qui déchirent leur pays d'origine ou encore à l'homophobie, Amadou, la quarantaine, un jeune Sénégalais plutôt nerveux et bouillant, s'invite à la discussion. Il veut justifier sa présence sur le sol américain.
Là-bas, au Sénégal, j'étais un animateur, j'étais un DJ. Les personnes m'avaient torturé. C'est à cause de l'homosexualité. Moi, je ne suis pas un homosexuel, mais la boîte de nuit que j'étais travaillé, il y avait la fréquence des homosexuels. Un jour, je suis arrivé dans ma maison avec mes amis homosexuels. Les personnes avaient jeté des pierres. Ils ont besoin de me tuer.
La traversée de l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis est, pour ces migrants, un véritable cauchemar. Chacun se presse pour raconter son histoire. Barry Mokhtar, 37 ans, originaire de la République de Guinée.
J'ai quitté la Guinée le 3 novembre 2023 pour la Turquie. Au niveau du Guadalajara, j'ai payé le ticket destination Tijuana. En cours de route, on m'a appréhendé. Où j'ai fait 3 jours, j'étais dans une cellule enfermée. Après ces 3 jours, ils nous ont fait sortir destination l'aéroport dans l'intention de nous faire retourner à Tabasco. Nous avons fui pour la montagne. Nous avons grimpé la montagne. Nous avons passé la nuit en plein forêt.
Il est vite interrompu par Yacoub qui estime que...
Le Brésil est plus dangereux parce que tu marches pendant des jours.
Quant à Amadou, il pense avoir vécu le pire dès son arrivée sur le sol américain.
Après 3 mois, j'ai quitté Mississippi. C'est la prison des immigrants. Ce n'est pas facile, c'est la chance.
Fatou, 22 ans, cloué dans un coin de son logement, visage fatigué par le voyage, partage son témoignage. Un récit digne d'un parcours de combattant qui expose la dure réalité de cette nouvelle route migratoire.
Ma route m'a pris 1 mois. J'étais en Guinée. Je suis venu au Togo. J'ai fait 8 mois. Après, j'ai pris vol de Lomé à Dakar, maintenant de Dakar à Istanbul, de Istanbul à Bogota. On a pris des taxis, après c'était des bus. Maintenant de Mexique à Mexico City, on a emprunté des chevals, des motards de Namasté, avec des pirogues, des bus, taxis.
En fait, c'est Alex, le mari de Fatou, qui a pris l'initiative d'organiser ce périple. Sous la pression de sa famille qui souhaite réunir Fatou et le reste de la famille, le mari, également sans papier, a dépensé des sommes faramineuses pour des passeurs.
Le coût total de ce voyage peut tourner autour de 15 000 $ pour un trajet de 1 mois. C'est vraiment stressant parce que si un parent emprunte ce chemin, on se dit toute chose peut arriver puisqu'il a été rapporté qu'une femme avec son enfant sur une moto, une voiture les avait percutés, la dame a perdu la vie. Un jeune aussi était décédé naturellement dans sa chambre d'hôtel.
Et il poursuit.
C'est un chemin qui est très dangereux. Même les policiers harassent ces migrants et aussi il y a les populations de ces pays qu'ils ont traversés qui leur montraient du racisme et qui leur rendaient la tâche difficile durant leur voyage.
Ces récits poignants révèlent non seulement les dangers physiques mais aussi les pressions psychologiques que subissent ces migrants tout au long de leur périple. L'effort financier est immense, les obstacles semblent insurmontables et le stress est omniprésent. Fatou s'inspire de ses expériences.
Je déconseillerais les gens de prendre ce chemin. Vu les difficultés qui sont sur la route, il y avait trop de stress. On payait à chaque étape.
Alors qu'ils arrivent aux États-Unis, beaucoup découvrent que la terre promise qu'ils imaginaient ne leur garantit ni sécurité, ni stabilité. Pourtant, leur détermination reste intacte, portée par l'espoir d'une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Mais à quel prix ? Jean-Claude Abello à New York, pour la Deutsche Welle.
Et ne manquez pas la deuxième partie de ce reportage de Jean-Claude Abello dans le prochain numéro de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Merci aussi à Oliver Pieper pour le sujet sur Batonnet et Hitler. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, abonnez-vous au podcast de Vue d'Allemagne. Tous les renseignements sur le site dw.com/français. Portez-vous bien. Tchuss !